Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, on se réveille ce matin avec des musiques électroniques. C'est à l'occasion de l'exposition Electro de Kraftwerk à Daft Punk à la Philharmonie de Paris jusqu'au 11 août. Si vous ne passez pas à Paris d'ici là, sachez qu'il y a un livre, le livre de l'expo, qui est un très très beau livre, très grand, c'est édité par Textuel et il résume parfaitement l'histoire de ce mouvement. Mais aujourd'hui, on va parler aussi bien de l'histoire de la techno que de l'exposition, donc à la Philharmonie de Paris, en compagnie de Jean-Yves Leloup, spécialiste des musiques électroniques, auteur de plusieurs ouvrages de référence. Il est le commissaire de cette exposition. Il est accompagné de l'artiste architecte Pierre Schneider, qui est associé à l'exposition en tant que scénographe.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
L'exposition Electro est ouverte, c'est à Paris, à la Philharmonie de Paris, Electro de Kraftwerk à Daft Punk. Bonjour Jean-Yves Leloup.
Bonjour.
Alors on va nous expliquer l'histoire de la musique dans cette expo, où il n'y a pas que ça justement.
C'est pas tout à fait une exposition historique, c'est vrai qu'on s'attend souvent de la part des grandes institutions culturelles à des grandes traversées historiques d'un genre, d'un courant musical, d'une esthétique. Et là on va plutôt évoquer cette musique de danse électronique, la house, la techno, et ce que l'on appelle communément aujourd'hui l'électro, qui est un terme un peu générique. On va l'aborder à travers ses imaginaires, ses codes, sa culture, ses esthétiques, ses relations avec les différentes formes d'art, que ce soit la photographie, la vidéo, l'installation, l'art numérique, la scénographie de concert, plein de formes artistiques à travers lesquelles elle s'expose et elle s'exprime. Et puis, on raconte aussi cette musique électronique à travers le regard des artistes, que ce soit des photographes, le regard que posent certains photographes sur les danseurs, les clubbeurs, les rêveurs, à travers le travail de luthiers et de designers qui conçoivent des instruments hier comme aujourd'hui, des plasticiens, des artistes contemporains, une manière très très esthétique et très très visuelle, très sensorielle et aussi très musicale, puisque l'expo est ponctuée par des mix de Laurent Garnier, de découvrir et de ressentir cette musique électronique.
Donc des choses à voir et beaucoup de choses à entendre.
Absolument.
S'il fallait parler de l'historique, comment est née la musique électro ?
La musique électro, celle qu'on dénomme électro aujourd'hui, c'est cette dance music populaire, une musique de club, de discothèque ou de rave party. Elle naît, on va dire, au cours de la seconde moitié des années 80, à travers ce qu'on appelle la house et la techno. Ce sont les deux matrices de cette musique actuelle.
Donc on reste dans la définition populaire du terme électro.
Oui,
donc on ne parle pas des expérimentations qui ont été faites avant, de la préhistoire, si vous voulez.
Si, bien sûr, on l'évoque parce que on ne peut pas parler de la musique électronique sans évoquer sa genèse, son histoire, les luthiers, les inventeurs, les compositeurs et les studios de recherche qui ont présidé à cette musique avant qu'elle devienne populaire. Elle commence à pénétrer la culture populaire à partir de 68, mais pendant la plus grande partie du XXe siècle, c'est une musique de recherche, c'est une musique savante, et ça bien sûr, on l'évoque dans la première partie de l'exposition qui s'appelle Man and Woman Machine, qui est consacrée à l'esprit visionnaire qui a guidé ces artistes des avant-gardes jusqu'à ce qu'on a appelé la techno de Détroit, qui elle est née vers à la fin des années 80.
Donc c'est d'abord une révolution technologique, l'électro ?
C'est une révolution qui est à la fois technologique et esthétique. Et esthétique. Alors, si on prend la musique électronique, c'est à la fois la recherche de nouveaux timbres, de faire table rase de la musique du passé. Là, je parle pour la question des avant-gardes qui notamment se développe plus particulièrement après la Seconde Guerre mondiale. Donc, réinventer la musique après le désastre de la Seconde Guerre mondiale, réinventer de nouveaux instruments. Mais vous voyez qu'il y a à la fois une sorte de projet esthétique là derrière, ou un projet presque de société qui s'affine, je dirais, avec lorsque cette musique devient plus populaire, cette musique devient dansante, lorsqu'elle se développe autour de la culture DJ dans les années 70, notamment avec la disco dans les années 70 et 80. Eh bien, elle se développe beaucoup dans les clubs gays new-yorkais, par exemple, autour de communautés qui se rassemblent, dans des lieux, comme on dit aujourd'hui, des lieux sûrs, enfin des safe places. C'est un concept qui est très en vogue actuellement et qui est né dans ces années 70, autour de communautés latino, gays, noirs qui se rassemblent pour danser, notamment. C'est vrai pour la disco et aussi pour les débuts de la house et d'une partie de la techno.
Et comment vous expliquez que cette musique naît dans ces milieux-là, très précisément, Jean-Yves Leloup?
En fait, elle naît, alors on a coutume de dire qu'elle naît à Chicago, à Détroit et en partie à New York, notamment chez des musiciens noirs américains qui eux-mêmes en fait sont très influencés ou très ouverts, qui ne se résument pas simplement à la culture afro-américaine dont ils sont issus et qui écoutent ce qui se fait naturellement en Europe, chez des musiciens comme Kraftwerk qu'on a écouté il y a quelques minutes, et bien d'autres musiciens européens qui eux-mêmes avait été inspiré par la musique afro-américaine, donc
c'est la boucle, hein.
Ouais, c'est une boucle presque infinie, une sorte de ce qu'on appelle parfois une double réfraction, c'est-à-dire que c'est un dialogue continu et riche entre l'Europe et les États-Unis. Et puis aujourd'hui d'autres continents comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud qui apportent aussi leur esthétique et leur lot à
et à qui cette, sont à cette tout musique. Aussi présents dans cette exposition électro de Kraftwerk à Daft Punk. Mais vous qui avez écrit depuis longtemps sur la musique électro avec quelques ouvrages de référence, je pense à Global Techno, Jean-Yves Leloup, comment définiriez-vous la musique électro?
Ah bah c'est une vaste question parce que vous savez, les musiques populaires elles ne possèdent pas de définition très très précise. C'est pas comme la musique sérielle ou dodécaphonique qui a été une fois pour toutes fixée dans les termes. Donc c'est une musique de danse et de fête principalement, mais qui peut bien sûr s'écouter chez soi, qui est basée sur des rythmes, sur une structure à quatre temps, avec souvent une grosse caisse qui est mise sur le premier temps, comme l'était la disco. C'est la disco qui invente un petit peu cette nouvelle esthétique, et avec des instruments.
Mais l'idée reçue de dire que l'électro, c'est la musique qui utilise des machines à la place des instruments, c'est une réponse qui n'est pas complète pour vous.
Bah, pas tout à fait complète. Disons que ce sont des machines, ce sont des instruments. Disons, une guitare électrique, on peut aussi la considérer comme une machine, bien sûr. Et puis, au fond, entre l'électricité et l'électronique, il y a une différence qui est très très fine, hein. Vous savez, tout ça, c'est une énergie électrique qui est elle-même présente dans notre corps, donc qui fait fonctionner ces machines, effectivement. Mais c'est à la fois l'utilisation de sons, on pourrait dire littéralement inouïs, qui n'est jamais entendu, qui sont aussi des sons de synthèse. Enfin, c'était aussi les débuts de la musique électronique, cette recherche de cet aspect inouï. Et puis, il y a aussi le traitement de sons, quelle que soit leur origine, des sons naturels, des sons urbains, des voix, d'autres instruments qui sont traités aussi à travers des instruments électroniques ou bien sûr des logiciels. Donc c'est à la fois la création de sons de synthèse et le traitement de sons enregistrés. Ce qu'était déjà la musique concrète ou électroacoustique, la musique électronique de Stockhausen et de la fin des années 50 et début des années 60, ces studios de recherche ont posé les bases de cette approche du son. Et aujourd'hui, elle évolue sous des formes différentes, avec des structures rythmiques et percussives différentes, pour devenir une musique, ma foi, très, très hédoniste, mais qui appelle beaucoup à l'évasion aussi, une forme d'évasion spirituelle.
S'il fallait parler des pionniers de l'électro,
eh bien, on évoquerait des personnalités de la scène de Détroit, par exemple. Je vais citer certains de mes compositeurs favoris, Carl Craig ou Mike Banks du collectif Underground Resistance, par exemple. Vous avez Jeff Mills qui est aussi assez présent dans l'exposition. Vous auriez eh bien des personnages en France, en Angleterre, en Allemagne. Kraftwerk sont évidemment très importants et ont un peu précédé cette explosion de la house et la techno, parce qu'eux, ils ont une approche plus mélodieuse, plus pop. même s'ils ont parfois travaillé la matière première de la percussion et des sons mécaniques et industriels. Vous auriez des DJ et des musiciens noirs américains de New York, comme je sais pas les Masters at Work par exemple. Enfin, ils sont très très nombreux, mais ils sont beaucoup moins, souvent moins iconiques que dans l'histoire du rock et de la pop. Et d'ailleurs, l'exposition, elle présente ces musiques-là sous des aspects parfois plus visuels, esthétiques, artistiques, et se contente pas du tout d'aligner les portraits de personnalités, parce que, au fond, c'est une scène assez pléthorique, avec des artistes, des musiciens qui ne se sont pas lancés dans cette carrière pour la même raison qu'un chanteur ou un guitariste de rock, de métal. De chanteurs classiques. Il n'y a pas la même incarnation que chez des grandes figures, comme David Bowie, par exemple, pour prendre cet exemple, parce que la Philharmonie lui a consacré une expo. Des gens qui sont souvent dans le secret. On a beaucoup d'artistes qui participent très activement à l'expo, mais qui ne participent pas à sa promotion.
Par exemple?
Les Daft Punk ou Kraftwerk sont des gens très discrets. Donc, Kraftwerk a fait une interview.
Présents.
Oui, ils sont présents, mais ils ne répondent peu aux journalistes. Ils pensent que leur œuvre, elle parle pour eux. Donc, voilà, ce sont des gens qui sont assez modestes et assez secrets, en fait. Et ils conçoivent, à l'image de Kraftwerk, ce qu'il appelle une Gesamtkunstwerk, une œuvre d'art totale, qui est normalement censée pouvoir parler pour l'ensemble de son travail et de son œuvre. Et point, donc ils ne se ressentent pas beaucoup le besoin de faire leur propre promotion.
Pourquoi prendre ces deux repères? Pourquoi l'exposition s'appelle Electro de Kraftwerk à Daft Punk?
Eh bien parce que ce sont deux formations qui ont créé une sorte d'œuvre d'art totale qui mêle la musique, des références culturelles, des arts visuels, de la vidéo, un travail scénographique, des artistes qui contrôlent l'ensemble de leur esthétique et de leur carrière, comme le seraient aussi des gens comme Underground Resistance à Détroit, par exemple, pour parler de collectif de musiciens noirs américains. Enfin, ce sont des gens qui sont à la fois des artisans et qui contrôlent l'ensemble de leur esthétique. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock. Scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it. Tie it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it. Chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it. Write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it. Surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it. It, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Autour de l'exposition Electro de Kraftwerk à Daft Punk, c'est à la Philharmonie de Paris jusqu'au 19 août. Et nous sommes avec Jean-Yves Leloup, le commissaire de l'exposition, mais aussi avec l'artiste Pierre Schneider. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes associé à cette exposition en tant que scénographe, c'est-à-dire comment utiliser l'espace pour raconter l'épopée de l'électro.
Exactement. Avant de faire la scénographie, en fait, Jean-Yves est venu nous chercher pour une installation qui s'appelle, qu'on a créée spécifiquement pour l'exposition, qui s'appelle Core, C-O-R-E, qui est un peu la métaphore du processeur informatique, du noyau, du cœur, de la matière numérique, et qui cherche à mettre en volume et en lumière l'ensemble de la bande-son fait par Laurent Garnier pour l'exposition. Donc c'est un dispositif cubique, un cube de 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres de haut, une matrice de LED en 3D dans laquelle on fait voyager l'onde sonore et osciller cette musique dans un espace lumineux. Donc c'est vraiment une interprétation visuelle de ce qu'on peut entendre en temps réel.
On déambule avec un casque ou...
Eh ben non, justement, un des partis pris forts de Jean-Yves qui nous a tout de suite séduit dans sa proposition, c'était de faire une exposition avec une bande son unique qui irrigue l'ensemble de l'expo. Il y a d'autres pièces évidemment qui produisent du son, on peut se brancher avec un casque pour s'isoler et les écouter, mais en tout cas le parti pris principal c'est une bande son qui vient animer toute l'exposition.
Pierre Schneider, vous en tant qu'artiste, comment vous vous situez par rapport à cette culture? Vous êtes le produit de cette culture? Vous êtes un enfant de cette époque? Ou bien c'est un repère parmi tant d'autres?
Moi, je dirais plus un enfant, effectivement. Donc on est né dans cette, on fait partie, moi et mon associé François Vunchel, de cette génération qui a vécu les rêves des années 90 et qui nous a beaucoup influencé, notamment dans la puissance de rassemblement de ces fêtes, qui était un endroit où on se rassemblait avant tout autour d'un son, plus que d'un musicien. En fait, les musiciens étaient toujours dans l'ombre, se rassemblait plus autour d'une musique et presque d'un sound system. C'était assez fort, c'était même très puissant à cette époque-là. Et évidemment, ça a beaucoup influencé notre cursus et notre carrière. On est architecte de formation, on dit souvent artiste de déformation. Et on cherche dans
Mais comment ça a pu vous influencer dans votre travail d'artiste, architecte?
Voilà, donc en tant qu'architecte, on s'intéresse aux sciences de l'espace, à mettre en espace les choses. Et pour nous, l'espace aujourd'hui est indissociable de l'environnement sonore. Mmh. Et donc on cherche à faire dialoguer ces différents éléments dans le travail qu'on mène chez 1024 Architecture, à la fois l'espace physique et l'espace sonore et numérique. Donc on travaille sur des dispositifs qui justement mettent en relation espace, son et image, lumière.
Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Il y a des objets, des photos, des pièces qui pour vous, Jean-Yves Leloup, sont intimement liés à la culture électro.
Il y a peu d'objets au sens d'objets fétiches et de ce qu'on appelle parfois dans le langage commun de la muséographie des mémorabilia. C'est vestiges et fétiches, à part peut-être une flycase très abîmée de Jeff Mills qui montre à quel point le DJ a bourlingué autour de monde. On préconise,
Il y a quand même tous les synthétiseurs de Jean-Michel Jarre.
Oui, il y a les synthétiseurs. Alors Jean-Michel Jarre.
Comment ne pas être fétichiste?
Oui, mais ce sont des instruments, ce sont des outils et aussi des œuvres de luthier et aussi de designer. Pour moi, il y a un regard, il y a une esthétique. En fait, les instruments qu'on a rassemblés peuvent fasciner et intéresser plein de publics différents parce que on a rassemblé des instruments électroniques qui vont de 1926, si je me souviens bien, la Croix d'Or, qui est une sorte de térémine absolument incroyable qui ouvre l'exposition jusqu'à des mini-synthétiseurs actuels de 2019. Des instruments qui traduisent un esprit visionnaire. C'est ça qui était important pour nous et non pas de rassembler juste les instruments les plus communs utilisés par les musiciens ou les DJ. On a un synthétiseur, le synthétiseur Coupigny, qui était utilisé au groupe de recherche musicale à la fin des années 60. Hélas, la plupart du matériel du GRM, donc de studio de recherche qui a été accueilli par la RTF, l'ORTF et l'INA, s'est débarrassé de la plupart de son matériel historique. Donc il reste pas grand chose, hélas, mais on a des archives, on a des photographies. Et puis il y aura bientôt un studio Pierre-Henri qui va ouvrir dans le musée de la musique, à quelques pas de là de la Philharmonie, à la Cité de la Musique aussi.
Vous venez de dire qu'il y a des photos, il y a des documents, et il y a cette histoire, Jean-Yves Leloup, comment socialement l'électro a d'abord fédéré plutôt les exclus dans les villes urbaines touchées par la crise américaine, c'est-à-dire les noirs, les homosexuels.
Tout ça vient de la disco. La disco, dans les années 70, cette culture, la culture club, la discothèque moderne, la culture des DJ, elle naît vraiment à New York, même si il y a eu bien d'autres choses auparavant, notamment en Italie ou ou en Allemagne ou en France. Ces lieux, ces discothèques vont devenir des sortes de havres, des refuges, des lieux de célébration d'une communauté qui commence à se constituer et à se voir comme une communauté agissante. C'est aussi les débuts du militantisme, tout ça hérité des droits civiques et de toutes les luttes de la fin des années 60. Et finalement, tout ça se fait dans des clubs, dans des discothèques, avec la disco qui devient une musique, un étendard, un porte-parole musical de cette communauté. Et c'est la techno, la house, l'électro, elles doivent tout. Elles doivent beaucoup, en tout cas, en grande partie au disco. Elles doivent parfois des choses aux avant-gardes, mais aussi beaucoup à cette culture hédoniste, mais aussi militante, qui était, et identitaire, au sens, disons, positif du terme, qui était la disco, et qui reste, qui est très présente aussi dans l'exposition. Et au fond, donc, il y a une culture de la fête et de l'hédonisme qui a marqué la culture gay depuis le début des années 70 et qui a perduré à travers les âges, mais après qui s'est fondu pendant les années 2000, ça avait un petit peu disparu. Et aujourd'hui, les nouvelles générations, avec toutes les questions de genre, de questionnement sur les sexualités, les pratiques et les inclinations et les genres, ce sont des questions qui sont très présentes aujourd'hui et les soirées sont redevenues très politisées de point de vue du genre. Beaucoup de soirées techno, électro, évoquent ces questions-là, sont très conscientes de ces questions-là.
Quand vous dites politisé, c'est-à-dire autant politisé que dans les années SIDA, puisqu'on a tous en tête, bien sûr, le film 120 battements par minute, le fameux 120 BPM.
Oui, il y a beaucoup de soirées, disons, qu'on pourrait qualifier d'underground, notamment à Paris, mais dans d'autres, enfin, ou à Berlin, et aussi dans d'autres villes maintenant en France.
Avec des artistes connus, des DJ. Est-ce qu'on continue à les appeler encore des DJ,
oui,
d'ailleurs?
Oui, il y a des DJ, bien sûr. La culture DJ est très présente, mais, enfin, ça rassemble une population aujourd'hui qui se veut assez militante aussi à l'intérieur de la soirée, mais aussi à l'extérieur, notamment autour des questions de parité, d'équité, de respect des cultures, queer.
Mais comment ça se concrétise? Parce que
une grande liberté de mœurs.
On peut le dire, c'est-à-dire que quand on avait affaire au reggae, au blues, tout ça, il y avait toujours les paroles qui venaient marquer cet engagement. Mais pour la musique électro, comment?
C'est plutôt des modes d'organisation sociale, d'entraide, d'autogestion, de respect d'autrui. Je pense qu'il ne faut pas envisager la question politique comme une question de contestation, mais comme une manière d'être et de travailler ensemble et d'exister ensemble. Je pense que c'est les jeunes collectifs qui aujourd'hui organisent beaucoup de soirées conçoivent, essayent de mettre en pratique, en tout cas, une éthique d'équité, de parité et aussi de très grande liberté de mœurs.
Qu'on retrouve dans l'expo?
Oui, à travers énormément de travaux photographiques. La photo est effectivement très très présente, mais on a des sculptures de Xavier Veillant, par exemple, des très grandes photographies de Andreas Gursky, de photos de foule. Il y a aussi pas mal d'artistes contemporains. Bruno Penado aussi, qui est un artiste avec deux très belles pièces. Claude Lévesque, et puis des artistes qui viennent du graphisme ou du roman graphique ou de la bande dessinée et qui ont aussi fait écho à cette culture.
Ils ont été marqués par cette culture,
il y a des romans graphiques, celui de Mathias Cousin et David Blow par exemple, qui s'appelle Le Chant de la Machine.
Qui raconte l'histoire de la naissance d'un mouvement.
Oui, de la house effectivement, qui est présent. Vous avez Alan Oldham, qui est à la fois un DJ de Détroit et aussi un dessinateur qui a dessiné beaucoup de macarons, c'est-à-dire ce petit rond au centre du disque vinyle, pour exprimer sa vision de sa culture, plutôt liée un peu à la science-fiction par exemple.
Alors, et aujourd'hui, l'électro a-t-il un avenir, Jean-Yves Leloup?
Oui, bien sûr qu'elle a un avenir. Bon, c'est une musique qui est très vivante en ce moment, et l'expo, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne muséifie pas ce mouvement, elle évoque plein de mouvements actuels.
Merci d'avoir compris la question cachée. Ouais.
Dans les arts, dans ses connexions avec les arts numériques, elle est très vivante aujourd'hui. Elle est très vivante dans des nouvelles formes d'organisation, disons, sociale, avec toutes ces nouvelles fêtes qui parviennent à conquérir le Grand Paris. Et puis, en Afrique, alors je parle à la fois du Maghreb, de l'Afrique noire, ou même de l'Afrique vraiment du Sud, et en Amérique du Sud, tout ça se mélange très, très naturellement. Moi, je suis très fan de beaucoup de ce qui se fait en Argentine, par exemple, ou dans d'autres pays d'Amérique du Sud, qui renouvellent vraiment cette approche de la musique électronique, avec non pas une sorte de mixité un petit peu convenue, mais un vrai syncrétisme entre électronique européenne et puis percussion sud-américaine.
On vient pour visiter l'expo. Est-ce qu'on finit dans une fête à la sortie d'Electro, de Kraftwerk, à Daft Punk, à la Philharmonie de Paris jusqu'au 11 août?
Non, mais l'art est une fête. fête aussi. Cette expo ne singe pas la discothèque ou la fête, mais entend apporter beaucoup de, je sais pas, d'activité, de dynamisme sensoriel, de vécu sensoriel pendant la visite de l'expo.
Pierre Schneider, merci d'être venu.
Merci.
Et merci aussi à Jean-Yves Leloup, commissaire de cette expo, d'être venu ce matin nous en parler. On peut réécouter ce réveil culturel en passant par franceculture.fr, à la coordination Corinne Amar, aidée par Maël Rey, et à la réalisation Vincent Abouchard, assisté à la prise de son par Souad Boukorsa. On se retrouve demain. Bonne matinée.